quelle est la bande dessinée qui, bien avant que vous commenciez votre travail, était préexistante ou existante en Afrique du Sud? Est-ce qu'il y avait une bande dessinée déjà locale, ou bien est-ce que la bande dessinée, les artistes locaux sont venus tardivement?
Well, firstly, South Africa doesn't really have a comic culture. I mean, it, I think, was all the years economically linked to England, and we did get some children's comics. Do you want to translate as I talk? Or?
No, I translate afterwards.
Okay. We had, of course, Tintin and Asterix comics, but it was really aimed at children, and maybe Marvel and DC comics, but nothing really else. And there were a few, very, very few alternative comics, but they had very small print runs of maybe 150 copies or so. Not really very good stuff. So they weren't really comics.
Donc il n'y avait pas grand chose en termes de bande dessinée en Afrique du Sud. C'était principalement quelque chose qui était destiné aux enfants. Donc il y avait Tintin, Astérix, éventuellement des choses de Marvel et de DC, donc les super-héros américains. Sinon, il y avait un petit peu de production alternative, mais c'était vraiment quelque chose de très restreint. Et en termes de tirage, c'était des tirages qui étaient de l'ordre de 100-150 exemplaires.
Et dans, donc, est-ce que ça véritablement, je lisais dans le, je pense, le Bitter Comics qui avait été publié à l'association, donc une chronique qui était faite sur le fait qu'effectivement, par exemple, Tintin pouvait avoir, être une lecture assez appréciée de. Dans ce contexte, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que finalement il y aurait vraiment une importance, ou bien est-ce que c'est une œuvre que vous utilisez vraiment?
Yes, I think you know, in the Afrikaans language, there were about 5 or 6 Tintin stories translated to Afrikaans, and then of course we read the rest in English. But they were very popular. I think Asterix was also popular, and I always sort of saw that there were some people who liked Asterix more, and there were some people who liked Tintin more, like me.
En fait, dans la langue africanaire, il y avait seulement 5 ou 6 des albums Tintin qui étaient traduits. Pour le reste, ils les lisaient en anglais. Mais c'était relativement populaire. Et en fait, il y avait des clans entre les lecteurs. Il y avait certains qui préféraient Astérix, et d'autres comme Anton qui penchait en faveur de Tintin.
Au moment finalement où vous vous lancez la revue Bidder Comics, vous faites finalement quelque chose d'assez neuf avec Conrad Boats, puisque vous travaillez principalement à deux. Quelle va être la réception au point de vue d'un lectorat? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact assez rapidement, ou ça va rester confidentiel?
Yes, I think when Bitter Comics appeared, it came with a bit of a bang, because there simply wasn't anything like that in Afrikaans. I don't know of anything else that looked similar in the Afrikaans language. So and of course we realized very early that we cannot only launch the black and white comic, it wouldn't be enough. So both Conrad and I did very large silkscreen prints, very colorful prints of our work, and from the beginning did exhibitions with the comic, and I think that increased the impact.
Donc quand ils ont lancé Bitter Comics en 1992, ça a été une sorte de ça fait beaucoup de bruit parce qu'il n'existait rien qui ressemblât en African. C'était vraiment complètement nouveau. Et dès le départ, par contre, il se rendait bien compte que sortir juste une bande dessinée en noir et blanc comme ça, ça ne suffirait pas pour véritablement faire parler d'eux. Et donc, dès le départ, avec Conrad Boats, ils avaient prévu de faire des grandes affiches en sérigraphie, très colorées, et ont dès le départ aussi associé la sortie de Bitter Comics aussi avec des expositions et également dans des concerts également.
Merci. Je vais continuer le tour de table. Paulina, donc toi tu es une auteure franco-russe et je pense que tu travailles au festival Boomfest de Saint-Pétersbourg.
Oui.
Est-ce que c'est un événement qui est totalement isolé dans le paysage culturel russe, ou est-ce que c'est quelque chose qui a d'autres, où il y a d'autres événements du même type, et est-ce que finalement ça démontre une véritable aujourd'hui vivacité dans la bande dessinée alternative russe?
La bande dessinée est isolée dans le paysage culturel russe en général. Il y a deux festivals pour l'instant qui existent. Il y a le festival de Moscou, ça fait 10 ans qu'ils travaillent. Ils sont plus mainstream. Nous, on a créé notre festival il y a 5 ans. On a fêté nos 5 ans là en septembre. Et c'est vrai que nous, on s'intéresse à la bande dessinée d'auteur. On est vraiment totalement ovni, on va dire, pour l'instant en Russie. Mais on a un certain nombre d'auteurs qui travaillent avec nous et qui sont en train de développer un travail personnel et puis de qualité, quoi, on va dire. Enfin bon, c'est un peu... On ne peut pas juger comme ça, mais en tout cas, c'est assez difficile. Là, sur les 5 ans où je travaille avec le Boomfest, j'ai senti déjà une bonne évolution. C'est-à-dire que notre stand de livres au festival, la première année, c'était une petite table à peine remplie. Maintenant, on remplit une salle avec des livres en russe. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Mais on est 2-3 éditeurs, pas plus pour l'instant.
Et... Tu parlais par exemple à Moscou qui serait plus mainstream. Est-ce que le mainstream en Russie, ça correspond à de l'importation, que ce soit des bandes dessinées traduites, ou est-ce que c'est une bande dessinée mainstream qui est d'origine russe?
En fait, en termes d'édition, pour l'instant, il y a très peu de traductions et d'éditions tout court. Le festival de Moscou organise un gros concours sur Internet auquel beaucoup de jeunes auteurs participent. Mais globalement, malheureusement pour l'instant, la majorité des auteurs en Russie, qui soient autodidactes ou qui tendent vers le fait de se professionnaliser vraiment, n'ont pas de perspective d'édition. Donc on est toujours sur des formats très courts. Il y a un peu de fanzina, encore que, pas beaucoup, ce qui est assez bizarre, parce que dans d'autres pays de l'Est, ça a commencé dans les années 90 avec du fanzina, et du coup leur marché est beaucoup plus développé maintenant, parce que la bande dessinée n'existait pas avant la perestroïka, avant 90 de toute façon, ça c'est clair. Du coup, c'est une situation qui est, je dirais, d'une certaine façon un petit peu artificielle, c'est-à-dire que le mainstream russe, c'est une reprise des codes du manga, du comique, de la BD franco-belge, avec des histoires souvent assez simplistes et avec un certain côté déjà vu. Mais bon, je suis un peu dure, mais c'est vrai que pour l'instant, on est là. Et puis à côté de ça, il y a des auteurs qui viennent de l'illustration ou qui sont simplement plasticiens. Et puis... Qui développe une réflexion peut-être plus autour de l'exposition ou même de la performance parfois, à défaut de pouvoir éditer, quoi, on va dire.
Et pour toi, Mazen, donc, auteur libanais, est-ce que tu as tu ferais le même constat par rapport à la bande dessinée au Liban? Est-ce que tout se passe à un niveau du fanzine, ou est-ce qu'il y a finalement des structures plus importantes?
Enfin, maintenant, il commence à y avoir... une association qui fait une revue, donc ça fait 2-3 ans, qui s'appelle Samandal, qui publie d'ailleurs des Libanais et des auteurs étrangers. Baladi était par exemple a fait la couverture du dernier numéro et des BD dedans, mais c'est très nouveau quoi. La bande dessinée a été quasi inexistante au Liban pendant, enfin depuis toujours, pas pendant. Et en arabe, quand on était gamin, il y avait juste Superman, même des très vieux Superman en noir et blanc mal imprimés, et deux trois trucs, peut-être Tintin, je sais pas. Mais on avait beaucoup de bandes dessinées franco-belges dans les librairies, le pays étant un pays à majorité francophone, quoi. En deuxième langue, c'est le français. Donc, au risque de ne pas être exotique du tout, j'ai lu les mêmes bandes dessinées que tout le monde. Hein. Donc j'ai commencé par des Chic Villes que je trouvais dans la librairie, et puis Ricochet, des Schtroumpfs, tout ça. Après, avec des affinités, bien sûr, pour... en grandissant, mais la bande dessinée libanaise en tant que telle n'existe pas, il n'y avait pas de traduction de toute manière de rien d'autre, et c'est un grand problème de langue en fait au Liban, parce que même quand on publie on ne sait pas en quelle langue on doit publier. Donc moi, la plupart de mes livres ont été publiés en français, ou écrits en français et publiés en français au Liban, ou auto-édités, et quand je les envoie en France, je ne suis pas assez exotique, parce que c'est un arabe qui écrit en français, c'est pas génial. Et au Liban, je suis très, très occidental ou occidentalisé, parce que pour beaucoup de gens, ils ne lisent pas, ou ils refusent même par parti pris politique, enfin politique par parti pris, de ne pas lire dans une autre langue, donc de lire dans leur langue d'origine. Et c'est, et il y a les anglophones aussi pour compliquer tout ça. Donc c'est vraiment un problème de langue. Et dans Samantha, justement, ils ont résolu, entre guillemets, ce truc en faisant une revue trilingue, mais où rien n'est traduit. Donc... parfois, il faut tourner pour lire à l'envers, c'est de l'arabe. Ce n'est pas un côté arabe, un côté français, c'est vraiment des auteurs mis tous ensemble. Je trouve ça assez intéressant, quoique, bon, ça limite. Chaque lecteur pourra lire quelque chose, mais rares sont ceux qui pourront lire le tout. Mais c'était la seule solution, un peu. Et dernièrement, j'ai publié un recueil de strips en arabe. C'était la première fois que je faisais ça, et il n'y a aucun éditeur. Donc c'est un éditeur de littérature, enfin un éditeur généraliste, on appelle ça, qui a publié ça. Et pour lui, il l'a publié parce que ça a été pré-publié dans un journal. Ça a eu un peu de succès, mais il me disait, ton livre de caricature. J'essayais de lui expliquer que non, ce n'était pas un livre de caricature, mais de bande dessinée. Après, je disais... il faut relire pour corriger l'orthographe. Il me disait, c'est pas grave, c'est de la caricature et tout. Donc c'est vraiment... après, ils l'ont mis dans les rayons pour gosses. Il y a une cigarette sur la couverture, quoi. C'est vraiment pas pour gosses. Donc c'est vraiment un truc... ici, bien sûr, on parle avant dans la conférence, et puis bien sûr dans toutes sortes d'articles que je lis sur la... pas la validation, je sais pas comment dire, sur la bande dessinée qui a acquis ses lettres de noblesse, etc. Mmh. Là-bas, c'est... alors quand tu dis tu fais de la bande dessinée, là, il vaut mieux ne pas le tenter. Tu dis je travaille dans une banque, tout va bien. Et il y a 4-5 auteurs en tout, quoi. Maintenant ça commence dans une nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeunes à l'université. En fait, il y a notamment une prof qui, au cours d'illustration, donne beaucoup de bandes dessinées. Donc ça développe petit à petit une scène locale d'auteurs.
Alors, en Argentine, par contre, on a quelque chose qui est assez différent, puisqu'il y a quand même une culture de la bande dessinée, ou qui en tout cas produit des auteurs assez importants. Je vais faire des pauses pour les traductions, comme ça, ce sera plus simple. Puisqu'il y a eu effectivement, que ce soit Osterwelde avec Francisco Solano Lopez, ou Alberto Breccia comme grand nom, avec Hugo Pratt, l'Italien, qui a aussi été lié au mouvement. Puis il y a eu une période, la période de la dictature, où effectivement il y a une production qui a été, je pense, nettement moins importante, sans être un spécialiste de l'histoire de la bande dessinée en Argentine, et puis un retour à la démocratie lié avec un renouveau où il y a eu effectivement par exemple l'éditeur Urraca qui a existé avec de nouveau du fanzine, et puis on a effectivement des auteurs comme Munoz et Sampaio, fort connus pour leur série Alaxineur, et des auteurs plus récents comme Edouard Torisso qui travaille lui pour la bande dessinée, pour les éditeurs américains. Donc, est-ce que vous avez effectivement ce sentiment d'appartenir à une vraie culture de la bande dessinée en Argentine, qui est vraiment établi.
Sí, yo siento que pertenezco a una gran tradición que en gran parte se ha perdido y queda un resabio que es lo que hay hoy por hoy, que es de lo que participamos Lucas y yo ahora.
Oui, il est bien conscient de faire partie d'une longue tradition, même s'il y a eu un moment où les choses ont été moins importantes, et qu'il fait partie aussi du renouveau avec Lucas qui existe aujourd'hui.
Pero no, no se puede comparar lo que era la historieta argentina de los años 50 o 60, de clásica, en volumen, digamos, a lo que es en la actualidad, que es casi un consumo de culto para de una elite muy enterada de lo que pasa en la historieta a nivel mundial.
Digo, on peut quand même pas comparer la situation qui était une situation espèce d'âge d'or quand même à une époque, et puis la situation actuelle.
Y algo por ahí curioso es que no, la dictadura no, en realidad no tuvo mucho que ver con la desaparición de la historieta. Durante la dictadura por ahí es cuando más se leía historieta en Argentina.
Il dit que la dictature n'a pas mis fin à la bande dessinée, c'est peut-être une période dont on lisait beaucoup paradoxalement.
La dictadura no tenía mucho interés en vigilar lo que pasaba en el entre los autores de historieta porque era considerado algo menor para chicos que no importaba.
C'était un art mineur pour les enfants, donc la dictature avait autre chose à faire qu'à s'occuper de ça, quoi.
Justement, effectivement, j'avais lu qu'il y avait la possibilité pour la bande dessinée de passer quelque part en dessous du radar de la censure, ou en tout cas de l'intérêt de la dictature. Est-ce que finalement il y a eu véritablement la bande dessinée en a profité pour dire des choses ou oser une critique de ce qui se passait?
Y un poco pasó eso, salían historietas que después fueron leídas como de resistencia.
Oui, il y a des bandes dessinées qui sont passées un peu inaperçues à ce moment-là, enfin dont on n'a pas jugé ce côté résistant et qui est apparu par la suite.
Pero yo no creo, esto es personal, que haya sido porque los militares se les pasó o no lo vieron, digamos, cualquiera les podía avisar que estaban esas historietas.
Ils pensent pas que c'est parce que les militaires n'ont pas vu, en fait, n'importe qui pouvait leur dire qu'il y avait des choses.
Yo creo que sí sabían lo que se publicaba y lo que se estaba diciendo, pero como la historieta importaba poco, tampoco hacía falta ir a perseguirlo, había cosas más importantes.
C'est juste qu'ils jugeaient ça vraiment sans importance et il y avait d'autres chats à fouetter pour eux, entre guillemets.
En anglais ou en espagnol? En espagnol. Yo creo que, sí, la dictadura militar diezmó la cultura argentina en su totalidad o la redujo en su expresión. Creo que la historieta también sufrió un poco eso. Sobre todo cuando mataron a uno de los grandes escritores de historieta argentina, que fue Oesterheld, que hoy se lo toma como un símbolo de resistencia.
Enfin, il dit que il y a quand même eu la mort d'Oesterheld, comme est-ce que le prononciez ainsi. Et il pense que quand même, oui, l'auteur de l'Éternaute, il pense que si quand même la dictature comme tout le reste de la culture argentine, la culture en général et la bande dessinée ont pâti du poids des dictatures de façon générale. Oui.
Dans vos œuvres publiées en français, donc il y a par exemple la bulle de Berthold qui avait été parue chez Albin Michel, ou l'héritage du colonel qui a été publié chez Delcourt. il y a un poids assez important de la politique, ou en tout cas une volonté d'exprimer un rapport que ce soit à la dictature et finalement à ses effets, ses conséquences. Est-ce que vous avez le sentiment d'être de faire de la politique, ou est-ce que vous, au travers de vos œuvres, est-ce que c'est pour vous quelque chose de véritablement important de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui en Argentine ?
Bueno, sí, la preservación de la memoria es muy importante, es algo que no puede dejar de hacerse, me parece.
Oui, c'est essentiel de faire ce travail de mémoire pour lui. Enfin, c'est impossible de ne pas le faire.
En mi caso, creo que durante los años post-dictadura se hicieron muchas obras respecto a la situación dramática de la que vivíamos. Hoy en día ya creo que hay un poco de agotamiento con el tema.
Oui, juste après la dictature, il y a eu une production. Ils pensent qu'aujourd'hui, bon, c'est un effet qui commence un peu à passer. Enfin, il y a moins de choses.
El libro que yo hice junto a Carlos Trillo, que fue un escritor muy importante de la historieta argentina, habla del tema de la dictadura, pero de otro costado, con mucho absurdo y situaciones bastante patéticas. Habla de la vida del hijo de un torturador.
Il parle du livre qu'il a fait, qui a été donc traduit chez Delcourt, avec Trillo, dont il souligne que c'était vraiment un des grands scénaristes argentins disparus récemment. Il dit que c'est la volonté là, a été d'aborder le sujet de façon tout à fait absurde, par un autre biais.
Creo que mucha gente no lo entendió de ese modo. Nos acusaron de ser explotadores de la dictadura, o dictadura exploitation, como nos dijeron.
Oui, les gens n'ont pas compris justement cette façon d'aborder les choses par ce biais. Si la gente no entendió la manera de...
Non. No sé, bueno. Diego creo que también hizo algún libro al respecto con el tema.
En el caso de la burbuja de Beltor, creo que llega un poco como influencia, más que... No fue que me propuse hacer un libro con el tema de la dictadura, pero si uno está haciendo un libro con una sociedad opresora y violencia política, es inevitable filtrar esa influencia de la historia que uno ha vivido.
Oui, dit que dans la bulle de Bertolt, je crois qu'il a été traduit chez Albin Michel, il n'a pas évidemment parlé directement de ça, mais évidemment, il vivait dans une société, il a connu des choses, et évidemment, ça transparaît dans ce livre.
Merci. Est-ce que pour toi, par exemple, Mazen, est-ce que tu as malgré tout un rapport aussi qui est assez... peut-être pas politique, mais en tout cas dans ton album Beyrouth paru à l'association, il y avait une véritable volonté de témoigner, de rester à Beyrouth pendant les bombardements et de pouvoir témoigner jour après jour au travers du dessin et du blog.
C'est très dur de parler de cette histoire parce que pour moi, pas du tout en fait. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vécu du tout comme ça, mais à un moment j'étais pris bien sûr dans le blog et tout, mais ça partait pas. Je dis ça parce que, en lisant le livre, quelqu'un peut avoir l'idée, ou je voyais les commentaires sur le blog, les gens avaient une idée très fausse où j'étais un héros qui veut parler au nom de mon peuple. Je n'en avais rien à cirer. On recevait des bombes et je ne pouvais rien faire d'autre. Donc, à la limite, j'étais très chanceux, à mon avis, en voyant 70%, sinon 90% des gens, de mes amis, qui étaient au chômage technique, désœuvrés du matin jusqu'au soir. Je pense qu'un artiste dans ce genre de situation est plus chanceux que quelqu'un d'autre parce que d'une part il peut continuer à travailler et d'autre part il est poussé à continuer à travailler parce qu'il y a une énergie énorme C'est triste à avouer et à dire, mais c'est la réalité. C'est que dans ces 33 jours, c'est la période la plus fertile de toute ma vie artistique, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau zéro, où j'ai produit 233 dessins en 33 jours. C'est quasi impossible quoi, à refaire. C'est comme les 24 heures de la BD, mais en 33 jours, on dort presque pas, on se réveille, on dessine. Et puis, le livre s'est fait tout seul. Quoi. À la fin, je réalise que c'est effectivement, il y a un truc narratif dedans, mais il s'est fait tout seul. Tu te lèves, tu regardes la télé, ou tu entends, etc. Et les idées, c'est scénarisé directement par Ehud Olmert, à l'époque, qui était Premier ministre à Israël. Donc, c'est un bon scénariste. J'avais rien à faire. Quoi. Il fallait juste voir les trucs et réagir. Donc, c'est un travail, d'une part, facile, entre guillemets, très... très motivant parce que pour toutes ces raisons, donc c'est un peu comme le fait de rester 5 jours ici, de travailler 16 à 18 jours à 18 heures par jour parce que tout le monde travaille, et là-bas c'est parce qu'il y avait ce... Mais sinon je suis très c'est affreux que ce soit le premier livre qui soit publié en France, parce que je suis très critique, moi, contrairement donc à ce qu'il disait par rapport à l'Argentine, au Liban je suis très critique vis-à-vis des auteurs et des artistes contemporains et de toutes sortes de cinéastes, etc., qui se sentent obligés de parler de la guerre civile. Donc à ce moment, c'est les 15 ans de guerre civile dans lesquels on a grandi. C'est vraiment le passage obligé de tous les auteurs. Et presque tout le monde travaille sur la mémoire et l'identité. C'est les deux mots qui reviennent dans toutes sortes de projets libanais. Quoi. Dans le tas, bien sûr, il y a des gens qui font du travail super sur la mémoire qui effectivement, est un peu effacée par l'État ou par le gouvernement, les gouvernements successifs. Mais c'est un très petit pourcentage. Le reste, c'est vraiment plus ou moins racoleur. Et je reviens à cette question d'exotisme qui est pour nous, enfin pour moi, qui est très importante à combattre. Donc, on a une sorte d'ananas ou de fruit exotique. Pour nous, c'est la guerre. Pour les Éthiopiens, c'est les famines. Pour le Rwanda, c'est le génocide. Et c'est comme si... En n'étant pas occidental, on est obligé de correspondre à une de ces cases pour être accepté comme tel. Sinon, c'est-à-dire, je parlerai du printemps comme un auteur, mettons, français. C'est moins intéressant. Ils disent, bon, on a quelqu'un qui le fait déjà ici. Quoi, et donc, c'est presque une étiquette qu'on aime bien vous coller dessus. Et j'essaie d'y échapper par tous les moyens. J'ai hélas pas réussi avec ce truc parce que ça a été vraiment... Ça a pris une ampleur énorme sur le blog... que j'avais ouvert pour des amis au début pour communiquer un peu, et après par le livre, etc. Et c'est drôle parce qu'on en discutait à l'époque avec des amis, donc chaque soir, et je leur disais, je vois ça venir, quoi. Je suis en train de faire le truc que j'ai pas envie de faire, quoi. Mais on est pris dans l'engrenage, quoi. Et aujourd'hui, c'est un des livres que je déteste le plus, pas parce qu'il me rappelle la guerre ou quelque chose, mais parce que il correspond à ce que j'aurais jamais voulu faire comme premier livre en France ou ailleurs. Quoi. Mes 11 premiers livres ne parlent pas du tout de la guerre. Ils sont publiés à 300 exemplaires au Liban. Et... Donc, voilà.
Est-ce que pour... parce que cette question d'exotisme, est-ce que, par exemple, Joe Dog a ce sentiment-là aussi de pouvoir parfois bénéficier d'un impact international par un aspect exotique, entre guillemets.
Yes, look... I think I agree with a lot of what you've said, sure. By the way, even though it maybe came across broken to me. But certainly I think European perception of South Africa, people just tend to do that to simplify things, you know, and the reality often has many, many different shades of grey. I think also that what has happened in South Africa is it's been a time of tremendous flux the last 15 years since the end of apartheid and what has happened up to now. So things are constantly changing. And therefore, you know, if I come to France and people see me as an anti-apartheid activist or something like that, I think there has been a lot of development in my work. There has been a lot of changes, meaning that I would rather call myself a satirist and somebody who reflects aspects of a changing time.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, même si, bon, ça c'est ma faute, c'est les questions de traduction peuvent créer des séparations. Ce que dit Anton, c'est que, bon, de la même manière, sur la situation en Afrique du Sud, on a une vision en France qui est sans doute très, je veux dire, en noir et blanc, et lui a dit que, bon, bah, toute la situation, elle est beaucoup, beaucoup plus en ton de gris, c'est pas aussi tranché que ça, et que, de plus, depuis la fin de l'apartheid, donc en 94, il y a eu énormément de changements, des choses qui ont beaucoup évolué, et que lui venant en France, si on le considère comme étant quelqu'un qui serait un militant anti-apartheid, en fait, lui préfère se définir comme étant un satiriste qui continue à apporter à son regard sur la situation des choses.
Pour toi, Paulina, est-ce qu'il y a, c'est pas dans la production russe, quelque chose qui est fort lié à la politique ou pas ? Est-ce que la bande dessinée ou la bande dessinée alternative, qui a tendance à pouvoir se distribuer plus facilement sous le manteau, véhicule un message politique de contestation dans un régime qui n'a pas envie d'être contesté ?
Alors, bah, c'est vrai que je peux vraiment rejoindre ce qui a été dit par rapport à la vision qu'on peut avoir en France sur les pays étrangers. Enfin, là, par rapport à la Russie, c'est vraiment flagrant. Il y a un numéro spécial du Courrier international ce mois-ci sur la Russie, et c'est tous les clichés qu'on puisse voir. Par rapport à la politique et la bande dessinée, en fait, là, j'ai ramené avec moi, c'est un peu par hasard, c'est un des derniers livres qui est sorti chez nous dans notre maison d'édition, parce qu'avec le festival, on a une maison d'édition qui s'appelle Boom Knig, et ça s'appelle L'art interdit, et c'est un couple d'auteurs, Victoria Lomasco et Anton Nikolaev. Ils ont été exposés déjà deux fois en France, et ils ont eu une double page dans Libé l'année dernière. Ils font de la bande dessinée politique, ce que moi j'appellerais comme ça. Ils font de la bande dessinée de reportage, et c'est vraiment quasi l'unique exemple pour l'instant d'un réel engagement. Mais c'est assez compliqué parce que, en fait, en Russie, après je parle vraiment en mon nom là-dessus, parce que c'est tellement compliqué que, tout le monde pourrait avoir une opinion différente, mais pour moi, en ce moment, l'activisme politique est plutôt du côté social, en fait. Et du coup, ces auteurs-là, Anton et Vic, ils se placent en observateurs d'une situation sociale, et notamment pour ce livre-là, concernant la situation de l'art contemporain, de la censure et de la religion, en fait. Donc ce livre-là raconte, bon, je peux montrer comme ça un peu, mais de loin, c'est pas au toit, tu feuillettes. Donc c'est un reportage en bande dessinée qui a été fait durant le procès de deux commissaires d'exposition dont l'un travaillait à Tritikov, que je crois, mais je ne suis pas sûre. Enfin, c'était vraiment des commissaires d'exposition très, très connus, très importants en Russie. Et ils avaient fait une expo où ils montraient des œuvres iconoclastes, des œuvres qui utilisent les codes des images religieuses, mais ou pour parler d'autres choses, ou pour effectivement attaquer, on va dire, l'image de la religion. Et un groupuscule extrémiste orthodoxe a porté plainte contre eux pour, comment traduire ça, comment tu dis, Voilà, c'est ça. Incitation à la haine entre les religions. Et ça a été un procès assez, assez long, au bout duquel ils ont été condamnés à une amende. L'un d'entre eux avait déjà été condamné quelques années avant pour le même type de problème. Et ils font aussi d'autres séries. Bon, ils sont assez portés sur tout ce qui se passe au niveau de la religion, parce que c'est vrai qu'en ce moment, en Russie, c'est vraiment un gros sujet d'inquiétude et de violence, en fait, réellement. Mais ils font aussi des choses sur tout un tas d'autres activistes, journalistes, tabassés, jugés, enfin. Et ils sont très liés aussi avec le groupe Voin, qui est un groupe d'artistes activistes qui font des actions de rue, etc. Puis bon, voilà, manifs et compagnie. Mais c'est vrai que, à part eux, là, j'ai pas d'exemples qui viennent en tête. Mais il y a un petit peu de bande dessinée dans certains journaux. Et puis, je pense qu'on peut dire dans la blogosphère russe, il y a quand même des choses qui commencent à se passer, mais pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment un livre que je rêverais de voir publier en France, parce que c'est... voilà, on avait fait une exposition à Angoulême il y a 2 ans et il y avait pas mal de journalistes qui étaient venus nous voir. Moi, je traduisais. Et c'était vraiment n'importe quoi, en fait, la façon dont on était perçus. Et puis, tout le monde est resté bloqué sur l'Union soviétique et sur une certaine vision de la répression et de la liberté d'expression, ou la non-liberté d'expression qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et aujourd'hui, en Russie, on est dans une situation qui est tellement particulière et avec des couches sociales vraiment très, très complexes, quoi. Des catégories de population, et notamment dans les intellectuels, c'est vraiment très complexe. Donc on peut pas du tout généraliser sur la situation de l'art contemporain ou du dessin ou de la bande dessinée en Russie, parce que chacun est vraiment logé à une enseigne très différente. Mais quand on voit les expositions d'art contemporain russe, comme ça, il y en a eu une à la Maison Rouge il y a deux ans, bon, voilà, il y a tout un tas de choses, quoi. Et la liberté d'expression, elle existe, et en même temps, elle n'existe pas. Enfin, Anton et Vic, ils sont moscovites, donc ils avaient plutôt à la base envie d'être exposés beaucoup et puis édités à Moscou. Et il s'est avéré que ça, c'était juste impossible, quoi. Et même les galeries où ils proposaient d'exposer, enfin, trouver des raisons, disaient oui, puis parce que personne ne peut dire que c'est un mauvais boulot, c'est vraiment un super boulot. Alors les galeries se disent « Ah oui, oui, ouais, on va exposer ». Puis 2 semaines avant, ils disent « Ah, le chauffage s'est cassé, on va devoir reporter, c'est désolé, vraiment dommage ». C'est que des histoires comme ça. Nous, enfin, on a à Boomfest, on n'a eu aucun souci pour l'instant avec quelque extrémiste que ce soit. C'est pas faute d'avoir essayé de faire des projets un petit peu à risque. Enfin, après, ça peut paraître bizarre, mais pour nous, un des projets à risque, ça avait été de faire l'expo du bouquin Le photographe d'Emmanuel Guibert. On savait pas trop ce qui allait se passer après ça, parce que MSF, qui était un des héros de ce bouquin, travaille en Russie, font un boulot hyper difficile. Ils sont vraiment détestés par le pouvoir, puisqu'ils travaillent en Ingouchie, en Tchétchénie. Ils ne voulaient même pas être cités. Enfin, ils ne voulaient pas parler à la conférence. On avait peur d'une espèce de groupe d'anciens combattants qui viendraient tout détruire. Enfin bon, voilà, on a ce type de peur. Et puis finalement, il ne s'est rien passé. Au contraire, on a eu une bonne presse. Donc on a édité ce bouquin-là. On commence à avoir une bonne presse. Il est sorti en septembre, donc c'est le tout début, là. Alors qu'on aurait pu penser que ça allait vraiment dégénérer hyper rapidement, parce que même la couverture en elle-même, enfin, est vraiment provocatrice pour le public russe aujourd'hui, quoi, qui est très très porté sur la religion, à défaut d'avoir un idéal communiste, tout le monde s'est rabattu là-dessus assez rapidement, quoi, sans, enfin, ouais, de façon complètement abrutie, quoi. Et donc, enfin voilà, donc on commence à faire des choses, et puis on va voir. Mais il n'y a pas de censure claire. On sait jamais, il faut tenter, et puis des fois ça passe. Bon, Vico et Anton, là, cette année, ça s'est un petit peu calmé, encore que, mais ils ont reçu pas mal de menaces. Anton, le même groupuscule a porté plainte contre lui. La semaine dernière, il a été arrêté dans une manif, mais bon, après ça, voilà, les manifs en Russie, c'est c'est particulier. Bon, voilà. C'est un peu décousu, je suis désolée, mais...
Non, mais c'est très bien.
Oui, j'avais peut-être une petite question, mais qui revient un peu en arrière, plutôt sur le début de discussion, avant qu'on revienne dans la politique. C'était de savoir d'où provenait la scène ou les auteurs, si finalement il n'y a pas vraiment de scène, mais plutôt quelques auteurs isolés, alternatives, bien dans vos pays respectifs, puisqu'on n'a pas forcément de mainstream, ou comme Paulina avait l'air de le dire, pas de bande dessinée avant la perestroïka. D'où est-ce que ça vient, et où est-ce qu'ils vont puiser leurs racines, leur inspiration?
Je peux commencer. Alors, en Russie, les écoles d'art, pour l'instant, prodiguent un enseignement réellement académique, ce qui n'existe plus en France, je pense, depuis les années, 60, quoi. Vraiment, dessin toute la journée, etc. Y compris en cours d'illustration. Les jeunes qui font des écoles d'art, ils sont déjà en rupture avec leur école même. Et puis, pour ce qui est de ceux qui ont envie de faire de la bande dessinée, je crois que le vrai moteur de tout ce qui se passe en bande dessinée en Russie, c'est Internet, quoi. Donc, les gens qui ont envie de lire de la bande dessinée en lisent sur Internet. S'ils parlent un peu anglais, là, ils peuvent se commander des bouquins ou quoi. Bon, voilà. Et parallèlement à ça, je l'ai vraiment vu chez pas mal d'auteurs que je connais. Et puis bon, moi aussi, mais moi, j'ai une histoire un peu plus particulière par rapport à ça. Mais puise pas mal d'inspiration dans l'illustration jeunesse, qui là pour le coup est une culture un petit peu moribonde là en ce moment. Il n'y a pas de beaux livres pour enfants qui sortent en ce moment en Russie, ou peu, mais le XXe siècle et la période soviétique a été vraiment un foyer pour des choses magnifiques, quoi. Et puis aussi il y a tout ce qui est journaux satiriques, Crocodile, etc., des journaux satiriques des années 30 et puis plus tard. Enfin, moi, je connais pas très bien le sujet. On aurait dû inviter Gérald Auclin, et vachement plus calé, mais bon. Et voilà. C'est par exemple pour ce qui est du manga, j'ai très bien vu comment ça s'est passé. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de manga en russe. Il y en avait sur Internet en pirate. Et puis d'un coup, il y a des mecs qui ont, voilà, ils ont trouvé des sous, et puis ils ont commencé à publier tout en vrac, des bons trucs, des mauvais trucs. Et ils ont fait ça parce qu'il commençait à y avoir dans le milieu, arty, jeune, et même pas vraiment arty, mais juste voilà, dans la jeunesse, des jeunes filles qui mettaient les chaussettes, faisaient les couettes, enfin s'habillaient en... Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et en fait, finalement, ils se sont mis à publier du manga parce que des jeunes étaient intéressés par une culture citadine liée au manga, et ça a été un déclencheur. Et maintenant, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait tout ce manga en russe, parce que ça nous aide aussi. On peut parallèlement proposer d'autres choses grâce à ça, quoi. Et tout se passe un petit peu comme ça, par à-coup, un peu artificiellement, et en même temps, ça se fait. Sur les deux festivals, et puis de temps en temps, il y a une petite foire du livre par-ci par-là où on peut mettre une table de BD. Enfin, on voit des gens arriver, mais totalement assoiffés, en fait, qui achètent pour certains vraiment beaucoup de livres d'un coup, qui viennent pour certains d'autres villes de Russie, d'un peu plus loin, enfin c'est un peu rarement. Par contre, en magasin, pour l'instant, on ne peut rien mettre. Donc on ne peut pas attirer vers la bande dessinée des gens qui sont complètement pas liés à ça. Et voilà, c'est toujours des gens des arts graphiques quoi, qui se mettent à faire de la BD ou qui se mettent à en lire, finalement, pour l'instant, j'ai l'impression. Quoi.
Pour l'Afrique du Sud, ça s'est passé comment? Puisque là, on parlait des années 92. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant? Est-ce que ça s'est fait en réaction ou inspiré par quelque chose?
Well, in South Africa originally, there is one thing with the question you asked right in the beginning, you know, whether there were comics or not, and I said there weren't. But there was a tradition of photo comics in South Africa. So. And these were produced locally. It wasn't like I know in Italy and maybe Spain. There's photo comics, but it was absolutely produced there, and it was for two different markets, for the white and the black market, produced by for the black market by black people, and the white market obviously was, I think, a lot of propaganda. But then and we read this when we grew up. It was considered very bad. Material to read, but anyway, we've actually incorporated quite a bit of that experience that we had in reading these things into Bitter Comics. I know that Konradsky made one comic that actually had one of those characters.
Pour revenir à la question que Nicolas avait posée au début, en fait, Jotok avait dit qu'il n'existait pas de tradition de bande dessinée. En fait, il y avait une tradition qui existait, mais qui était une tradition plus de romans photo. C'était des romans photo, en plus, qui étaient produits localement. C'était pas des choses qui venaient, même s'il y a eu quelques trucs qui étaient traduits d'italien ou d'espagnol, mais c'était des choses qui étaient produites localement, et en plus, qui étaient produits, qui étaient très séparés. Il y avait des choses qui étaient faites par à des auteurs noirs pour une population noire et à des choses qui étaient faites par des auteurs blancs pour une population blanche, et c'était extrêmement fort en termes de c'était très chargé en termes de messages, en termes de propagande, et c'est quelque chose quand ils ont commencé à faire Bitter Comics que Konradsky, donc Konrad Boats, qui est l'autre cofondateur, a incorporé, puisque notamment il a utilisé à un moment des personnages qui apparaissaient dans ce genre de livres.
Okay, and when we started the comic, and I think I was asked the other day why did I decide to make a comic, and it's maybe a personal thing. I was, from a very young age, I wanted to do comics. I did, before I started studying, live for 2 years in Europe, and I followed comics very closely. So when I went back to South Africa, in my first year as student, I met Konrad Boetes, and the two of us then started drawing comics in our second year. The production of comics, I mean, yeah, it immediately had an impact, because there simply wasn't anything like that in Afrikaans. So I think the fact that it was in Afrikaans really helped us. If it was in English, people would have maybe said, we have seen similar kind of things, but because it was in Afrikaans, it was unique. Also, we used a very colloquial language, so a street language, not a kind of a high Afrikaans, and very bad swearing, which immediately had an impact, because people thought this was cool. I mean, young people thought that.
J'ai fait un entretien avec Anthony hier. Donc hier, je posais la question de pourquoi est-ce qu'il voulait devenir auteur de bande dessinée. Il disait que dès le départ, il avait voulu être auteur. que faire de la bande dessinée. Il est parti étudier 2 ans en Europe, et lorsqu'il est rentré en Afrique du Sud, il est rentré à l'université, et c'est là en première année qu'il a rencontré Konrad Boots. Ils sont très rapidement devenus proches, et ils ont commencé ensemble à dessiner dès la 2e année à l'université. Et au moment où ils ont commencé à dessiner, à faire de la bande dessinée, ce qui a vraiment marqué les gens, c'est qu'il n'existait rien d'équivalent en Afrikaner. En plus, ils utilisaient, s'ils avaient fait quelque chose qui était en anglais, les gens auraient pu dire, ben oui, on a déjà vu d'autres choses puisqu'il existait des publications en anglais, mais en Afrikaner, il n'existait rien. Et en plus, ils ont dès le départ utilisé un langage qui est un langage extrêmement familier, avec beaucoup de d'injures et de jurons qui étaient présents. Et c'était, ça a sans doute été aussi un des éléments qui ont fait le succès de Bitter Comics au départ.
Okay, as I said, you know, Konrad and I started out, but then when the moment I started, I graduated, I started working with students because I was appointed a lecturer, and I then all the talent I noticed in the following 5 years or so, I would motivate young people to draw comics, and we managed to get quite a group of young people together. Also, my brother was living in Berlin. He came back to South Africa. He also started drawing. So it in the end, we were about a group of 10 or maybe 12 people who were all drawing comics. And because we did posters for bands and for theater, there seemed to have been a lot of influence also from the music and from theater, all kind of left of the government and critical of the government. So it was a kind of a movement.
Oui, alors Anton a terminé l'université et il est devenu ensuite professeur. Et ensuite, pendant les années qui ont suivi, ben, chaque fois qu'il voyait des gens qui avaient du talent, il les encourageait parmi ses étudiants à s'essayer la bande dessinée. Il a aussi eu l'appui de son frère qui habitait à Berlin. Et puis, quand il est rentré en Afrique du Sud, c'est lui aussi mis à faire de la bande dessinée. Et puis, au bout de 4-5 ans, ils étaient un petit groupe d'une dizaine qui était très actif. Et ils avaient aussi l'avantage, comme on mentionnait au départ, de faire des posters pour des groupes de musique, également pour... alors theaters, c'est des théâtres, et petit à petit ils ont eu ce genre de soutien. C'était tout un mouvement d'organisation qui était très plutôt à gauche et très critique du gouvernement, qui était là, qui d'une certaine manière est venu pour les soutenir.
On peut peut-être continuer avec Mazen.
Il faut me rappeler la question, parce que là, je suis un peu perdu.
Donc, en fait, c'est de savoir d'où surgit la bande dessinée d'auteur quand on est dans un pays où il n'y a pas forcément une production locale mainstream. D'où est-ce que ça sort, d'où ça s'inspire
Oui, je peux parler. En fait, non, je peux parler pour tout le monde parce qu'il y a eu presque. Grossièrement, je dirais 3 générations d'auteurs. La première a arrêté de travailler quand je commençais à vouloir faire de la bande dessinée. Donc c'était un groupe de 4 auteurs réunis autour d'un type. Ils faisaient beaucoup des trucs dans le style de métal hurlant des années 70.
Donc à chaque fois, c'était assez très peu de gens en fait.
Ça va aller plus petit. Là c'était un gros groupe de 4 personnes donc. Ils sont venus à Angoulême en 82, je pense, à l'époque de l'invasion israélienne. C'est vraiment une époque très dure au Liban. Je ne sais pas comment ils s'étaient débrouillés. Je crois qu'ils avaient convaincu le ministère de la Culture. Genre, oui, c'est très important. Et ils étaient venus, ils avaient fait une expo à Angoulême. J'entends parler de ce truc. Moi, j'ai bien sûr, j'en sais rien. Mais j'ai connu une de ces personnes, est devenue ma prof. Elle faisait des strips, elle a arrêté. Ils sont tous dans l'illustration aujourd'hui. Ils ont tous arrêté. Pour une raison obscure, je leur demande à chaque fois parce que je les connais bien, et ils me disent oui, ça marchait pas et tout, et voilà, ça a arrêté. Après, la deuxième génération, c'est moi tout seul comme un grand. Donc en même temps, en génération, c'est pas 20 ans quoi, ils ont 10 ans de plus que moi. Mais après, dans les années 90, Bon, pareil à Joe Dog, je veux faire. J'ai jamais voulu être cosmonaute, pompier, tout ça. Je veux faire de la bande dessinée depuis que j'en lis, quoi. Depuis que je les regarde et que je les dessine, je les copie. Donc,
visiblement, c'est pas une envie très répandue, ou alors il y en a très peu qui passent à l'acte.
C'est vrai. Il y a des fous qui passent à l'acte à la fin, mais c'est une envie. C'est presque systématique. Enfin, pas systématique, mais la plupart des auteurs ont commencé comme ça, en gros lecteur de bande dessinée. Très rares sont les exemples que je connais, en tout cas, comme Lewis Trondheim, par exemple, qui a décidé à 24 ans, si je ne me trompe pas, ou des gens qui sont venus vraiment, qui ne sont pas bédéphiles à la base. Donc je voulais en faire, et c'était impossible, il n'y a ni éditeur, ni revue, et tout. Alors pendant longtemps, bien sûr, je dessinais un peu, mais je ne produisais rien, attendant qu'un éditeur se dise « Ah, qu'il m'appelle, qu'il me dise « Fais-nous quelque chose », et tout. » Puis j'ai compris que ça ne marchait pas comme ça, donc j'ai commencé à auto-éditer, en fait, très influencé par... En fait, je connaissais la bande dessinée mainstream, comme tout le monde, donc, enfin mainstream, en tout cas les gros éditeurs, donc je connaissais des trucs comme Moebius, comme, bien sûr, mais l'association a été... J'étais un jour à Paris, je vais à la FNAC et je vois un Gossens que je n'ai pas, et c'était de la folie pour un grand collectionneur, et que j'apprécie vraiment, c'est un de mes auteurs préférés, donc c'était très bizarre que ce ne soit pas sur Fluide Glacial, c'était une sale édition qui même pas cartonné, donc, mais je l'ai acheté. Puis j'ai trouvé un autre, c'était Trondheim et Menu, c'est moins d'un quart de seconde pour vivre. Je ne connaissais pas du tout les noms ni l'édition. Je me suis dit, c'est la même édition, ça doit. Si public au sens, ils doivent être bons, quoi, les gars. Quoique Fluide Glacial, mais c'est un autre sujet. Donc j'ai pris les trucs, et puis petit à petit, je trouvais d'autres choses de cette maison d'édition à chaque fois que je voyageais. Puis je disais à des amis, tout simplement, genre. Quand j'ai découvert Baudouin, bien sûr, donc je demandais, dès que tu me trouves un livre, envoie-le-moi, etc. Et là, en même temps, je découvrais Cramp aussi par hasard, et puis je découvrais un peu le mouvement underground américain bien plus tard, donc. Et je me suis mis à l'auto-édition, mais pareil, donc aussi que Joe Dog, depuis le début, je refusais de faire un fanzine, en fait, parce que comme on est au Liban, il n'y a pas les éditeurs et les fanzines et tout. Donc il fallait que ce soit un livre pour moi. Comme je n'avais pas d'éditeur, je ne pouvais proposer à personne. Il fallait que pour moi, ce soit un livre, quoi. Donc j'ai mis toute ma fortune de l'époque dessus et j'ai autopublié ce premier livre, qui est assez mauvais par ailleurs, et très dans le style de l'association, donc même sorte de couverture, etc. Et j'ai fait 300 exemplaires, j'en ai vendu 80 autour de moi en 5 ans. Donc c'est moi qui les vendais. Et plus tard, donc, cette nouvelle génération qui a 10 ans de moins, plus ou moins aujourd'hui, y a un type qui m'a dit « Moi, je n'aurais pas vu ton journal 99, je n'aurais pas pensé que c'était possible au Liban. » Je dis « Mais comment tu l'as vu ? Je ne l'ai jamais vendu, je les connais, les 80 personnes. » Donc ça a circulé un peu, puis j'ai fait plusieurs autres, en fait, des petits trucs toujours publiés sur du beau papier, etc. Et ça a donné des idées après à un éditeur qui m'a publié deux livres, puis il y a eu toute une nouvelle génération, donc aussi grâce, comme je disais, aux profs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans les 20 à 25 ans, il doit y avoir, ou les 20 à 30 ans, mettons, il doit y avoir une quinzaine d'auteurs, peut-être. Et c'est ce que j'appelle la troisième génération. Mais bien sûr, il y a des affinités, enfin, il y a des allers-retours entre tous ces gens. Et il y a une autre particularité aussi que j'ai oubliée, c'est sur la langue, toujours, donc les gens qui ont grandi à Beyrouth Est, comme moi, sont plus ou moins, enfin, pour schématiser, pour faire une caricature, les chrétiens sont plus francophones et les musulmans plus anglophones. Et les écoles anglophones étaient du côté donc, de Beyrouth Ouest, plutôt. Donc c'est très drôle, parce qu'on a j'ai des amis, donc moi je connais sur le bout des doigts la bande dessinée franco-belge, avec tous les petits tirages, les trucs impossibles et tout, et eux ne connaissent Tintin, quoi. Par contre, ils connaissent tout Marvel, DC Comics, ils connaissent tout ça aussi.
Mais il y a le même mouvement du côté anglophone comme francophone.
Le même mouvement vers la...
C'est-à-dire
il y a des auteurs qui sont très... Ça se voit tout de suite dans leurs dessins ou dans leur manière de travailler, qui sont très inspirés par les comics. Et c'est drôle d'avoir ces deux influences qui se côtoient sans jamais se croiser dans le même pays. Donc comme on n'a pas de tradition, chacun... Et aujourd'hui, il y a des jeunes filles de Tripoli qui font des mangas, donc ils dessinent des arabes avec des yeux comme ça, c'est très drôle. Alors ça, c'est moins bien, du coup, mais bon, peut-être ça va marcher à un moment. Quoi.
Et si on finit le tour, je suppose qu'en Argentine, on est peut-être plus sur une situation proche de ce qui se passe en Europe et aux États-Unis.
Comment est la pregunta?
Oui, la question d'origine, c'est de savoir comment était née une scène alternative ou une bande dessinée d'auteur donc dans des pays où l'historicité n'était pas forcément là. Et par contre, je disais qu'en Argentine, a priori, ça devait être un modèle plus classique, enfin, qui ressemble plus à la situation américaine ou française.
Sí. Bueno, claro, Argentina tiene una larga tradición de historieta de muchos años y hay muchos autores. Claro, las situaciones políticas y económicas fueron derivando en que en un momento desaparecieron todas las editoriales.
Oui, il y a une longue tradition, il y avait beaucoup d'auteurs et des choses de grande qualité, mais bon, la situation politique a fait que peu à peu les maisons d'édition ont cessé un peu d'exister.
Sí.
Creo que mi generación, que estamos con Diego, somos de una generación que se autoeditó. Nosotros teníamos nuestras propias revistas, nuestros propios fanzines, y había como un movimiento bastante amplio de revistas under e independientes cuando empezamos, en los años 90.
Oui, ils font partie d'une génération qui s'est auto-éditée. Et il y avait un mouvement assez important avec des revues underground qui apparaissent dans les années 90, auxquelles ils font partie.
Et pour, par exemple, pour Joe Dog ou Mazen, c'est lié à aussi à une découverte à l'étranger. Là, c'est ce milieu indépendant. Il y avait déjà un milieu underground, je sais pas, dans les années 70. Ou est-ce que...
Mais en Argentina, c'est une situation extraña, sí, de tener la propia tradición de historietas argentinas. Y tener mucha influencia de cómics francés y español y norteamericano. Hay como una, se mira para todos lados ahí. Y últimamente el japonés, obviamente. Creo que nos apoyamos para hacer nuestros propios proyectos en los comienzos, en todo ese amplio abanico. Así que no se parece ningún autor a otro, creo.
Oui, il y a une grande diversité et les auteurs font des choses très différentes parce que depuis toujours, en fait, il y a eu la possibilité de... Bon, il y a une longue tradition, il y avait aussi une connaissance de la bande dessinée francophone, espagnole, italienne. Donc, il y a quelque chose d'assez ample qui existait de toute manière déjà. Il dit, on regarde partout, il y a un éventail très large et on regarde tous... Et américaine, j'ai oublié, on regarde tout ce qu'on peut prendre, quoi.
Pour revenir à quelque chose au rapport à la politique, est-ce que dans la production, donc ça c'est lié à mon obsession du rapport entre trauma et bande dessinée, mais est-ce que par exemple votre travail qui touche quelque part au rapport qui est la torture, la dictature, est-ce qu'il y a un mouvement d'auteurs qui, en bande dessinée, aborde ce sujet, ou est-ce que finalement vous faites figure d'exception, ou est-ce que la bande dessinée aborde en Argentine beaucoup d'autres sujets très divers et variés, et que vous êtes deux représentants plus politiques ou sociaux?
Bueno, primero hay que aclarar que no somos autores políticos, no, ni para nada. No
son pas des auteurs qui revendiquent cette place. Voilà, c'est juste pour le préciser, en fait.
Las historietas más de política sobre la dictadura puntualmente abundaban en los años 80. Luego, paulatinamente, han ido desapareciendo. Hoy por hoy casi no hay.
C'est surtout dans les années 80 où il y a une production qui était en lien avec la situation politique, mais peu à peu ça a disparu, oui. Enfin, c'est moins important. Il a fait la dernière.
Era algo más usual en los autores de unas generaciones mayores a nosotros, que sufrieron más la dictadura. Nosotros éramos niños en la dictadura.
Oui, c'est peut-être la génération d'avant qui a eu souffert de la dictature, où ils étaient enfants pendant la dictature.
Pero ahora hay algo raro en muchas historietas nuevas en Argentina que tienen como tema al peronismo. Hay mucho peronismo pop en la historieta argentina.
Paradoxalement, par contre, il y a un retour de la question du péronisme. Alors, ils utilisent l'expression de péronisme au pop. Je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais eux-mêmes se demandent.
Est-ce qu'il y a eu aussi une réaction, alors là, pas plus par rapport à la dictature, mais... par rapport à la crise qui a frappé l'Argentine dans les années 90, il me semble. En fait, la situation de faillite qui commence à toucher un peu l'Europe s'est trouvée bien plus tôt en Argentine. Est-ce que ça, c'est aussi un fond politique dont vous avez parlé ?
Sí, sí, hay como un déjà vu con lo que está pasando en Europa. Obviamente no va a ser tan catastrófico como pasó en Argentina, lo que pasa acá, pero yo creo como autor me fui por otros caminos que no reflejen la realidad, la dolorosa realidad. No sé, fui por algo más de dejar volar la imaginación que ser un autor político.
Oui, il y a un air de déjà-vu pour nous dans ce que vous vivez. On espère que ça sera moins pire que chez nous. Il dit, mais lui, il a pris un peu le contre-pied. Il est plutôt allé du côté de l'imaginaire plutôt que de travailler ces thèmes-là.
Yo hice una historieta en el año 2002, muy poco tiempo después del peor momento de la crisis, que se llama Carne Argentina, y es sobre la crisis de ese año. Carne Argentina.
Oui, lui, il a fait une bande dessinée en 2002, un an après la crise, qui s'appelle Cher Argentine, cher au sens carne argentina, au sens cher la peau.
Es un libro colectivo que hicimos varios autores de un grupo que teníamos en aquel momento y que se editó luego en Francia en ediciones Mosquito, pero mi historieta no está.
Il dit qu'en fait, ça, c'est tout un groupe d'auteurs. Ça a été édité chez Mosquito en France. Bon, son histoire n'a pas été reprise. Toutes n'ont pas été reprises, mais il y a eu ce travail, effectivement, qui a été fait sur ce thème.
Donc, sur ce constat, on va interrompre. Je ne sais pas s'il y a des... Oui ? Dans le public, des questions, des interrogations pour les auteurs qui sont présents.
Moi, j'ai répondu pendant que tu n'étais pas là. Hein. Je t'ai repéré, tu n'étais pas là quand j'ai répondu à ta question il y a 45 minutes.
Ouais. Donc, il avait effectivement répondu sur le sujet, mais si tu veux lui répondre.
Non, enfin, oui. Enfin, non, mon avis, il le connaît.
Si, peut être. Sí, estoy harto. Yo tengo una vida bastante normal. No estoy todo el día pensando ni en dictaduras, en crisis económicas. Me la suda, como dicen los españoles, un poco. Y no me saca espacio para la creatividad.
Il dit qu'il en a marre. Il vit comme tout le monde. Il passe pas son temps à penser à la dictature et aux crises. Et voilà, quoi. Il a envie de parler d'autre chose.
Sí, pasa algo, como decía acá el muchacho de Beirut, que después termina siendo difícil poder hacer otra cosa que no sea algo testimonial de tu país. Es como que enseguida tenés que ponerte la pluma y empezar a bailar raro y ser exótico y temas generales como, no sé, la ciencia ficción, el amor o cualquier otra cosa están un poco vedados. Eso pasa bastante, es verdad.
Oui, il reprend l'exemple de Mazan qui dit qu'effectivement on est un peu obligé après toujours de parler de la guerre des thèmes et que oui, voilà quoi, c'est pareil. Il a envie de parler de science-fiction, d'amour, de plein d'autres choses.
D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup.
Et maintenant, je crois qu'il y a un mariage.
Je sens une odeur de mariage. Ça fume de mariage.